France Bleu RCFM.
France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
À tous, soyez les bienvenus dans votre émission Toc Toc. Permettez-moi de saluer Mickaël André et Annie. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
Ainsi que Thomas Bronzini, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Ils m'accompagnent tous les deux et vous entendez que je les présente pour une fois. D'habitude j'attends, mais là je me sers d'eux pour combler le temps parce que notre invité vient de finir ses répétitions pour nous offrir un spectacle incroyable demain au Théâtre Municipal de Bastia. Tchaïkovski, Bizet, Passion Romantique, la mezzo soprano Éléonore Pancrazi sera sur la scène du Théâtre de Bastia, donc demain jeudi, et après demain vendredi à l'Espace Diamant d'Ajaccio. Elle sera entourée par l'ensemble instrumental de Corse, dirigé par Yann Molena, et puis la présence d'un grand violoncelliste, Dimitri Maslenikov. Elle viendra nous parler de sa carrière, mais également de cette révélation lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2019 qu'elle a obtenue, et ses scènes qu'elle parcourt à travers l'Europe et le monde, et surtout, les possibilités incroyables que lui offre sa voix. On en parle avec elle entre 17h et 18h. Messieurs, est-ce que vous savez ce qu'a écrit forumopéra.com sur Éléonore Pancrazi?
Non, on veut savoir, oui. On veut savoir.
Moi, oui.
Bon, parce que vous le savez, Mickaël.
Oui.
Parce que, alors évidemment, recevoir ce prix, être élu révélation lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2019, lorsqu'on est mezzo-soprano, qu'on vient de Corté, c'est-à-dire qu'on vient d'une petite île, on sait à quel point c'est compliqué de travailler un instrument ou l'art lyrique lorsqu'on vient d'un petit endroit, même si nous avons la chance d'avoir un conservatoire et d'avoir des cours de chant lyrique. Mais
bien
c'est
sûr.
Très compliqué parce que c'est un art vraiment ultime. Eh bien, Éléonore l'a fait, elle viendra en témoigner. Alors voilà ce qu'ils ont écrit. Écoutez bien. Éléonore Pancrazi, un timbre pulpeux, des couleurs dont le chatoiement est un appel au vice, une prononciation toujours intelligible. Et on sait à quel point c'est important, les fous d'opéra que nous sommes. Eh bien, la première critique, souvent, c'est « Oh là là, on comprend rien ». Et c'est important, Thomas, parce que l'opéra, c'est une pièce de théâtre également. Il faut comprendre ce que nous disent les interprètes.
Bien évidemment. D'ailleurs, au conservatoire, on apprend à chanter, mais on apprend également à jouer d'un instrument, notamment du piano, car le piano va nous suivre pendant toute la formation, et à jouer sur scène, car ce sont vraiment des rôles que l'on incarne. Et moi, je suis impressionné par Éléonore, parce que cette compréhension, cette diction, elle vient aussi, elle nous le dira peut-être je me trompe, mais pour avoir beaucoup regardé ce qu'elle faisait, écouté ce qu'elle faisait, c'est sa décontraction qui m'impressionne.
Elle va nous expliquer comment elle fait, la coquine. Elle ne va pas être décontractée, parce que là, elle court depuis le Théâtre de Bastia pour arriver jusqu'à la radio, à la Citadelle.
Elle serait essoufflée.
Alors, c'est pas faux ce que vous avez dit, parce qu'elle a étudié le piano et le violon, et je crois que c'est important de pouvoir étudier un instrument de musique, d'être lecteur, évidemment, bon, ça va de soi, hein. Lorsqu'on est un artiste de sa trempe, bon, on est obligé d'être lecteur, de lire la musique. Et puis, surtout, ce qui est impressionnant chez elle, moi je trouve, on va lui poser la question également, c'est le répertoire. Mais le répertoire, il est d'un vaste incroyable. C'est-à-dire qu'elle démarre du baroque, elle balaye toutes les époques jusqu'à la musique contemporaine, puisqu'elle a fait une création avec une compositrice contemporaine il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, elle est assez incroyable et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Alors on va l'écouter. On va l'écouter avec Carmen, qu'elle chantera d'ailleurs demain soir au Théâtre Municipal de Bastia et après-demain à l'Espace Diamant d'Ajaccio. L'amour est un oiseau rebelle. La bannière, Carmen, disait évidemment.
C'est certain.
Applaudissements. Éléonore Pancrazi, bonsoir, merci d'être
bonsoir.
Avec nous.
Merci de m'inviter.
Alors avant que vous preniez place sur ce siège, je disais avec beaucoup de délectation la phrase publiée par Forum Opéra qui est trop géniale. Éléonore Pancrazi, un timbre pulpeux des couleurs dont le chatoiement est un appel au vice. C'est ça qui me plaît beaucoup. Une prononciation toujours intelligible. Et Thomas Prondigne rebondissait sur cette phrase, une prononciation toujours intelligible. En disant, c'est vrai, j'ai vu beaucoup de vidéos, je l'ai beaucoup écouté, et c'est assez incroyable. Et votre question, c'était, Thomas ?
Non, je disais, parce que moi je suis très traqueux, et donc je vous regardais chanter, et puis j'ai vu des extraits chantés par d'autres chanteuses sur des mêmes airs, et je trouve que vous avez une décontraction, en tout cas vous affichez une décontraction, je suis sûr que vous avez le trac, c'est obligé, quand on est dans votre cas, et quand on a votre talent, c'est obligé, mais en tout cas, ça ne transpire pas.
Et, la question est, quel est le secret ?
Quel est le secret ? Dites-moi, dites-moi
Écoutez, visiblement, il y en a un, il est énorme, vu la taille bruit de mon trac que vous ne voyez pas.
C'est et vrai, sincèrement.
Ah oui, oui, moi je suis. Il y a des gens à chaque fois. Je suis vraiment très étonnée sur des productions. J'ai des collègues qui rentrent en scène, qui n'ont pas besoin de se détendre. Ils rentrent comme ça, comme s'ils rentraient dans leur salon en fait. Mmh. Alors que moi, en coulisses, je suis là, j'essaye de méditer, de me concentrer. Je fais des exercices de respiration pour me calmer parce que je suis extrêmement traqueuse. Et c'est de pire en pire avec les années en plus.
Est-ce que le secret ne vient pas aussi dans l'idée de se mettre très vite dans le personnage, qui est un masque et qui permet peut-être, en rentrant dans le rôle, même dans un récital, de gommer un peu, en tout cas, cette pression qui monte et qui est crescendo juste avant la scène.
Ah mais ça c'est sûr, c'est une des vérités, c'est que à partir du moment où on est sur scène, la chose qu'on doit avoir en tête, c'est ce dont on parle, et pour pouvoir permettre aux gens qui nous écoutent de rentrer dans le monde que l'on décrit et dans lequel on est censé être justement mentalement quand on arrive, qu'on commence à chanter, et c'est vrai que ça aide énormément, que ce soit en récital ou en production. En production, ce qui est encore plus facile, c'est qu'effectivement on est dans un personnage, on est dans une mise en scène, donc il y a
le costume,
l'énergie, voilà,
ouais.
C'est ça, il y a l'énergie de la production. Quand on est en récital, juste devant un piano ou seul avec un orchestre, c'est un peu différent, mais à partir du moment où on doit dire des mots, il y a tout un décor qui se dessine devant nous et on rentre là-dedans et effectivement ça c'est un super moyen d'oublier son trac. Hélas, des fois, il reste un peu là, mais quand même.
L'extrait que nous venons d'entendre, c'était un concert France Musique et vous étiez accompagné par Orlando Bass, me semble-t-il.
Absolument.
Vous êtes incroyable parce que vous êtes cortenaise, vous avez étudié à Corte et à Ajaccio, notamment, et on sait à quel point il est difficile d'arriver à votre niveau lorsqu'on étudie l'art lyrique. C'est rare quand on vient d'une petite région, même si nous bénéficions d'un conservatoire. Il a fallu une volonté de faire et un travail acharné qui continue, Éléonore.
Oui, c'est vrai. Il y a plein de moments où justement, dans les moments de grand trac, où je me dis, mais est-ce que t'as choisi le bon métier comme tout le monde ? Il m'arrive d'avoir des doutes dans ma vie. Et justement, c'est quand je pense au fait que je viens de Corte, que je suis née en Corse, je me suis dit, enfin, tu t'es pas donné tout ce mal pour en arriver là et finalement arrêter. Mmh. Et en fait, c'est ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que ma force aujourd'hui en tant qu'artiste, justement, c'est d'être corse. Ça me porte énormément. Et puis surtout, il y a mes parents, évidemment. Moi, je sais que c'est comme ça aussi que j'y suis arrivée. C'est parce qu'ils ont cru en moi, qu'ils m'ont donné les moyens de m'échapper de l'île, en fait.
Vos parents, c'est votre terreau à plusieurs titres, parce que au commencement, ce sont eux les passionnés d'opéra. On se souvient avec émotion, bien sûr, des nuits d'été de Corte. Anne et Ferdinand.
Oui, c'est ça.
Vos parents. Je crois que votre premier opéra, votre papa vous l'a fait visionner à l'âge de 5-6 ans.
Oui, à peu près, ouais.
C'était quoi ?
C'était après moi, c'est le souvenir que j'ai.
Ouais,
peut-être que lui me dira qu'en fait c'est pas ça, mais moi j'ai le souvenir que le tout premier opéra que j'avais vu à la télé, c'était La Traviata, la mise en scène de Franco Zeffirelli. Il y a un film qui avait été fait avec Placido Domingo et Teresa Stratas, et je me rappelle que pour nous appâter, nous amadouer avec ma sœur, il nous disait, puisque vous aimez les robes de princesse, venez, je vais vous montrer un film où il y a plein de robes de princesse. Évidemment, ce spectacle se passe pendant le 19e siècle, donc il dit 19e siècle, dit robe à corset fantastique avec des jupons partout. Et effectivement, ça a capté notre œil d'abord. Et il n'était pas bête, mon papa, parce qu'il a choisi comme extrait Le Cœur des Bohémiennes, qui est une musique assez connue extrait de La Traviata. Et ça nous a plu tout de suite. Et du coup, petit à petit, c'est comme ça, en fait, il nous a montré les spectacles d'abord à la télé avant de nous en montrer en vrai.
Donc, les dorures du spectacle, les chœurs et choisir un tube. Voilà, si vous voulez une porte d'entrée pour vos enfants.
Mon père pourrait écrire comment faire aimer l'opéra à ses enfants. Vraiment, il peut écrire un bouquin.
Eh bien, alors, on a besoin de lui.
Ah oui, on a besoin de lui.
Oui, hélas.
Alors, ça démarre par l'apprentissage d'un instrument, piano, violon. Mmh. La voix a toujours été là. Vous avez toujours chanté, Léonore ?
Oui, toujours. Toujours, depuis enfant. Mes parents m'ont raconté que quand ma mère était enceinte de moi, elle jouait. Ma mère joue très bien du piano. C'est une super pianiste et elle me disait que quand elle était enceinte, elle jouait énormément du piano et mon père à côté chantait et donc elle l'accompagnait. Ils chantaient plein de choses ensemble, du Verdi, du Mozart aussi, les Noces de Figaro. Je me dis que tout ça peut-être à... Enfin, je sais pas. Je me dis que même à l'état de fœtus, on est une éponge.
À nourrir une vocation.
Ouais, voilà. Mm. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours chanté, si c'était pas de l'opéra, c'était de la variété, les musiques des dessins animés que j'écoutais, mais j'ai toujours chanté.
La mezzo-soprano que vous êtes aujourd'hui, qui a été élue révélation, c'est formidable quand même. Je voudrais même que vous fassiez un message pour RCFM. Bonjour, Éléonore Pancrate, révélation lyrique aux Victoires de la musique classique 2019. Vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On vous prenait pour une dingue, je suis sûre, au collège, au lycée.
Ah oui. Ah, mais je m'en souviens très bien. C'est-à-dire... À Ajaccio, pas vraiment, parce que j'avais commencé Ajaccio, donc j'ai fait mon lycée là-bas, j'ai fait mon primaire et mon collège à Corté.
Puis vous étiez au conservatoire là.
Oui, voilà, c'est ça. Collège et primaire à Corté, pas d'école de musique, pas de musique du tout. Je prends un peu de cours de piano en cours particulier, un peu de cours de violon aussi, mais clairement, on me rit beaucoup au nez. Voilà, et en plus parce que j'aime l'opéra, on se moque de moi parce que personne ne partage cette passion avec moi, donc c'était un peu la déprime.
Après, on se moque de l'ambition aussi.
L'ambition, elle était même pas là en fait. Je pense qu'à Corté, j'étais très déprimée quand j'étais à Corté. Du coup, je pense que je savais que au fond de moi, je voulais être chanteuse, mais chanteuse d'opéra. Je pense que c'était même pas, enfin, je sais pas. Ouais, non, c'était même plus un rêve en fait. C'était une utopie très 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 lointaine dans un monde parallèle. Donc non, il y avait même, on pouvait pas se moquer de l'ambition parce qu'il y avait pas d'ambition. Et après, quand je suis allée à Ajaccio, donc là, j'ai commencé à prendre des cours de chant au conservatoire Henri Thomas. Et là, au contraire, les gens m'ont hyper encouragée. Enfin, il n'y avait que certaines personnes de ma famille, vous savez, une autre génération. Passe ton bac avant de faire le rossignol, tire à leur chanter Mozart au bac. Enfin voilà, je me rappelle de ces commentaires pas très sympas. Mais dans le cadre de ma scolarité, je me rappelle au lycée, tout le monde m'avait énormément soutenue et me disait non mais toi c'est sûr tu peux pas faire autre chose, faut que tu fasses du chant et surtout il faut que tu fasses de l'opéra. Enfin non, j'ai été très très soutenue à partir du moment où je suis allée à Ajaccio. Et quand je suis arrivée à Paris, du coup, j'avais l'impression qu'ils m'étaient poussés des ailes, parce que on m'avait tellement aidée dans ma démarche aussi, du fait de trouver un prof de chant en arrivant à Paris et tout, que j'étais assez confiante, finalement.
C'est à ce moment-là que vous vous dites, eh ben voilà, je voudrais en faire mon métier.
Ouais, le lycée, en fait, dès le départ, je pense qu'au bout d'un mois de cours de chant avec quelqu'un qui restera jamais dans mon cœur, qui est Véronique Jacobone, il est prof de chant du conservatoire d'Ajaccio, au bout d'un mois, je savais que je voulais faire ça. Je me disais, mais en fait, ça se passe trop bien, j'aime trop ça, je peux pas faire autre chose, en fait.
Est-ce qu'elle vous dit, ça va être difficile, ou elle vous dit, moi j'y crois, tu peux le faire?
Alors, elle me dit les deux. Elle a été très honnête, elle me dit, moi j'y crois, t'as un potentiel, surtout quand j'étais chez elle, j'avais un brin de voix, hein. J'étais pas une surdouée. C'est-à-dire qu'il y avait une voix, il y avait quelque chose à travailler, mais c'était pas « oui ma chérie, dans 5 ans, tu es sur scène pas, », pas du tout.
Mais il y avait le même sublime timbre, si je puis me permettre.
il était joli. et donc du coup, elle me dit « oui, t'as les capacités, mais déjà, il faut que tu trouves un autre prof de chant sur la capitale ». Et elle me dit « après, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer ». Elle me dit « mais je suis sûre que ça peut marcher, mais par sécurité, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ».
Oui.
Voilà.
Non, mais c'est un pari terrible.
Ah oui, c'est risqué. Ouais.
Bon, et après, on entre en religion, véritablement.
Ah oui, complètement. Mais vraiment, après, il faut pas s'empêcher de vivre, mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté
les sorties, les bringues, tout ça.
Évidemment. Et puis, moi, je viens quand même de Corse où la spécialité des jeunes, c'est le barathon. Quand j'étais à Ajaccio, je me rends compte, je faisais partie d'une génération où on buvait, on fumait beaucoup, on faisait beaucoup la fête. Ça faisait partie aussi de tuer l'ennui ici, parce qu'on n'avait pas énormément de choses à faire. Il n'y avait pas les salles de cinéma à Ajaccio comme il y a aujourd'hui. Enfin, il fallait faire quelque chose de nos vies, donc du coup, on faisait la fête. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai continué ça encore mes deux années et demie. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que ma voix, elle ne suivait pas. Que le chant, en fait, ça demandait vraiment une discipline énorme, que ça demandait énormément de sommeil, que l'alcool, il fallait en boire seulement occasionnellement. Et enfin, je parle un peu comme si j'étais une alcoolique, ce qui n'était pas le cas non plus. Mais
non, mais on comprend bien que l'hygiène de vie est primordiale.
Ce que c'est d'être jeune aujourd'hui. Ouais. Et pareil, s'éloigner. Après, j'ai compris d'autres choses aussi. Il fallait s'éloigner des endroits bruyants. Et puis après, enfin, et d'autres choses, c'est-à-dire que plus on utilise son instrument, plus toute cette sphère en fait de la gorge, de la bouche devient très fragile. Et c'est pour ça aussi qu'on est des gens plus malades que la normale en fait, parce que qui a une extinction de voix dans la vie? Enfin, je veux dire, vous en avez une quoi, tous les deux ans, tous les trois ans, peut-être il y en a qui en ont jamais eu. Nous, les chanteurs, ça.
C'est fréquent.
C'est, voilà, c'est-à-dire, même si c'est pas fréquent, ça nous arrive et on doit faire hyper attention, quoi.
Extinction de voix chez vous, c'est quand un petit voile se pose, ça peut être sexy et sensuel pour quelqu'un qui s'exprime dans la rue.
Ah ouais,
et,
non, pour
et
nous,
complètement
c'est
neutralisant pour vous.
Tourner. C'est vrai, c'est des voilà, moments c'est pas très agréables.
Vous serez demain et après-demain sur la scène du théâtre de Bastia et puis vendredi à l'espace Diamant d'Ajaccio. Moi, je vous invite vraiment à réserver vos places. Dépêchez-vous, donc demain à Bastia au théâtre et après-demain à Ajaccio à l'Espace Diamant pour Tchaïkovski Bizet, Passion romantique. Vous serez entouré de l'ensemble instrumental de Corse dirigé par Yann Molenac. Nous joindrons tout à l'heure par téléphone. Et puis à vos côtés aussi un violoncelliste, Dimitri Maslenikov. Vous nous dites un mot de ce jeune homme ?
Incroyable, je l'ai rencontré aujourd'hui.
Oui.
Tout ce que j'en savais avant, c'était que c'était quelqu'un qui avait commencé sa carrière très très jeune, à 13 ans, il était lauréat de plein de concours internationaux.
Oui, j'ai vu ça. Oui,
voilà, et après, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que la carrière effrénée, c'était peut-être pas vraiment pour lui, donc du coup, il a ralenti les choses. Et en fait, là, on a une chance énorme de le voir, parce que je l'ai écouté en répétition tout à l'heure, ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Mmh. C'est-à-dire que ce mec, s'il s'était pas arrêté, ça aurait été la star du violon, ça aurait été enfin l'équivalent de Gauthier Capuçon, je pense, en Russie. Enfin, ce qu'il fait, c'est prodigieux.
Vous allez chanter avec lui ou pas?
Oui, on a un morceau ensemble.
Parce qu'on sait à quel point le violoncelle et la voix,
surtout la voix de mezzo,
si je puis me permettre, se marient à merveille. Donc demain, allez au théâtre de Bastia et puis après demain à l'Espace Diamant d'Ajaccio. Vous allez, je le dis jamais, mais là je vais le dire, sur corsebillet.com. Et puis voilà, et comme ça vous pouvez récupérer vos places. On vous écoute parce que alors moi c'est un vrai coup de cœur, Forêt, avec cette mélodie au bord de l'eau. Mais alors là, vraiment, voilà, il faut une grande chanteuse. Il faut quelqu'un qui ait une diction parfaite et qui comprend ce qu'elle dit et qui nous touche. Mais alors là, en plein cœur, écoutez cet extrait, c'était Léonore Pancrati. Éléonore Pancrade, dis donc, avec voilà cette prise directe que vous avez entendue. Vous étiez hyper malade ce soir-là.
Ah ouais, ouais, c'était, ça n'a pas été facile.
Et vous jouiez toute votre vie.
Complètement. Ouais, c'était, je pense que ça a été un, oui, un soir très décisif dans ma vie.
Ouais, avant les révélations, il fallait tout donner, quoi.
Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est fait sur les victoires de la musique classique, c'est sur plusieurs tours. C'est-à-dire d'abord, les agents envoient des dossiers où les gens peuvent postuler aussi en candidat libre. Après, un jury de professionnels sur ces dossiers en sélectionne 40. Sur les 40, ils en sélectionnent ensuite 8. Et sur les 8, ils en sélectionnent 3. Après, les 3 font un concert qui est filmé par France Musique et France TV.
Donc c'est ce que là, nous entendons.
Exactement,
là.
C'est ce qu'on entend. Là, on était encore noté devant un jury de... On a été jugé par un jury de professionnels. Donc, il y a eu un vote de fait à la fin de cette soirée-là. Et ensuite, ces vidéos ont été mises sur Internet. Et là, le public devait voter aussi. Et ensuite, c'était 50-50 du vote du public et du vote du jury professionnel, sachant que le jury professionnel compte double. Voilà.
Forcément. Michael Andréani, nous allons tester les connaissances d'Éléonore Pancrade avec vous. Ouf. Mais pas seulement celles de Thomas Brodigny, parce que vous savez qu'il a un cursus lui aussi.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça en rigolant, Marie.
Non, mais je ne ris pas.
Oui,
non, riez. Je prends deux personnes qui suivent un cursus parallèle. L'un est sorti, a fait la fête, et l'autre a été plus sérieux.
Non, l'un est sorti, et l'autre est sorti, mais vraiment.
Vraiment, ouais. Et vraiment sorti du bois. Mais alors, ça concerne surtout les mezzos, me semble-t-il, Mika.
C'est le cas.
Ouais.
En fait, il faut retrouver le rôle de la mezzo-soprano selon l'opéra que l'on va citer. Il y a 10 questions.
C'est génial, ouais. J'adore ça.
Bon, on est là pour être ridicule à côté de vous.
Hein. Oui.
Voilà. Mais après,
bon.
Moi j'aurais l'air ridicule si ça marche pas. Hein.
Alors, juste avant de poser la question, oui. Vu que le répertoire d'Éléonore Pancrade est absolument hallucinant, puisqu'il s'étend de la musique baroque à la musique contemporaine, donc il est fort possible qu'elle ait joué plusieurs rôles ou interprété certains airs de ce que vous allez nous citer.
Ah ben, je vous le dirai.
Ouais,
alors,
vous
juste
le dites.
Pour savoir, est-ce qu'on met le chrono ou pas?
Ah oui!
Bien sûr.
Oh, un peu de pression, c'est excitant.
60 secondes, alors, chrono.
Allez. Ok.
Donc, est-ce qu'on est prêt? On y va?
Ouais.
Allez. Dans La Favorite de Donizetti, de quel personnage de la mezzo-soprano Rosine Stoltz joue-t-elle le rôle?
Léonora.
Dans Eugène Onegin de Tchaïkovski, on ne retrouve pas un mais deux rôles de mezzo-soprano. Lesquels?
Il y a Olga et Madame Larina.
Dans l'opéra de Gounod, Faust, on retrouve également
Thiebel
deux
et
rôles.
Dame Marthe.
Oui, deux rôles à retrouver encore.
On joue pas, Rigolette.
Non, on joue pas.
Madalena et Giovanna.
Elle a chanté ça.
Oui, bien sûr. La fausse ingénue de Mozart, l'opéra bouffe, il y en a un.
Où c'est
un personnage.
Ah. La fausse ingénue, Mozart, l'opéra bouffe, mm-hmm. Derline. Non.
Non.
Susanna, Despina.
Loretta, Rosanna.
Non. C'est pas Yacinta.
Yacinta.
Si. Eh oui, je viens de le dire.
Attends, de Mozart.
De Mozart.
Mozart. Je connais pas cette pièce. Ah mon Dieu, je connais.
Tristan et Isolde de Wagner.
Ah, Brangen.
Oui. Salomé de Strauss.
Bam. Ah bah c'est Hérodias, voilà.
Ouais, on en a encore trois.
Allez,
sans
allez-y,
chrono.
Allez, pour le plaisir.
Dans Madame Butterfly de Puccini.
Suzuki.
Bon, dans la Traviate.
Il y a Flora et Annina, il y en a deux.
Ah oui.
Flora, ouais. Bien voir.
Oui.
Et enfin, dans Les Troyens de Hector Berlioz, il y a deux personnages.
Cassandre et Didon.
Oui, tout à fait.
Ah et Ascagne aussi, qui a un rôle de mezzo, mais plus
et,
court.
Et les rôles de garçons, on aurait pu dire, tiens, Cherubino, par exemple.
Eh oui.
Oui, absolument.
Ouais, le page,
plein, oui,
que vous avez joué.
Absolument, que je viens de finir, là.
Et alors là, ça a été un plaisir, mais hallucinant, vous vous êtes éclaté.
Ah oui. Ouais, ben non, et puis c'est surtout.
C'est quoi la direction, le chef, la mise en scène, c'est quoi?
Bah, tout, en fait, il y avait un combo assez parfait, c'est-à-dire le metteur en scène, c'est ce cinéaste hollywoodien qui s'appelle James Gray, qui vient de sortir le dernier film avec
Brad Pitt,
Ad Astra.
Mmh.
Qui a sorti avant ça d'autres films géniaux comme Lost City of Z, beaucoup de films.
Vous vous en fichez, mais c'est l'un de mes réalisateurs préférés, quand même.
C'est vrai, ah ben, je m'en fiche pas du tout.
Non,
c'est un de mes meilleurs réalisateurs.
Ouais.
C'est un de mes réalisateurs préférés. Le jour où on m'a annoncé que j'avais bossé avec lui, j'ai pleuré. Et surtout, j'ai vu j'ai découvert ces films au Palais des Congrès à Ajaccio. Ça ne s'oublie pas, ça, quand même. C'est-à-dire que j'ai découvert un truc en Corse. Enfin, voilà, j'ai pas eu besoin de partir à Paris, en tout cas, pour découvrir le cinéma de James Gray, ce qui est quand même plutôt positif, finalement.
Joaquin Phoenix est l'un des acteurs fétiches de James Gray.
Voilà. Et donc, ça a été, c'est exceptionnel pour un chanteur d'opéra d'avoir, parce que normalement, on travaille avec des metteurs en scène essentiellement, qui sont spécialisés dans l'opéra.
Il avait déjà bossé ou pas du tout dans la mise en scène? C'était sa première fois?
Ah non, il était hyper, en fait, c'était hyper touchant parce que ce mec, il travaille quand même avec les plus grosses stars d'Hollywood. Il fait des films avec, je sais pas combien de millions de budget. Il sort le dernier film avec Brad Pitt et il arrive, il est d'une humilité, d'une générosité incroyable. C'est-à-dire, il arrêtait pas de nous dire. Moi, des fois, il venait me voir, il m'appelait Ellie, il me disait, Ellie, tu penses que je vais être huée? Non, je ne pense pas. Et première rencontre, il nous invite à boire un verre. Ça ne se passe jamais comme ça. Et il nous dit, s'il vous plaît, ami chanteur, dites-moi, qu'est-ce qui fait une mauvaise mise en scène d'opéra? Et si à un moment vous avez l'impression que je vous laisse tomber ou que je vous donne pas les bonnes indications, je vous en supplie, dites-le moi. Faut que ce soit un partage. Faut que, enfin voilà, je veux que ce soit une réussite, mais dans le sens où tout le monde est heureux et défend les choses comme il l'entend et le sent. Enfin, c'était exceptionnel.
Moi, j'aimerais entendre votre réponse justement à cette question. Qu'est-ce qui fait une mauvaise mise en scène? Parce que je vais pas être vulgaire, mais franchement, de plus en plus, on se frappe des mises en scène contemporaines. On est à côté du sujet. C'est dur, quoi. Parfois, c'est très bien. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais c'est à double tranchant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent leur Paris,
bien sûr.
Voilà, de partir dans quelque chose de complètement, voilà, exactement. Et après, c'est-à-dire que ça peut marcher comme ça peut complètement échouer. On peut passer complètement à côté du projet.
Que lui avez-vous dit?
Et c'est ça. Tout le monde a donné son avis. Moi, mon avis, c'était, s'il te plaît, n'essaie pas d'intellectualiser. Moi, je pense, parce que je sais, je me base en tant que public. Moi, j'aime l'opéra parce que les premiers spectacles que j'ai vus, c'était de vrais divertissements qui m'ont permis de voyager, de rêver. Voilà, pas forcément de réfléchir pendant trois plombes. Après, quelqu'un d'autre lui a dit, pas de vulgarité si c'est pas écrit dans le livret.
Il nous faut pas tous à poil, c'est pas justifié.
Mais ça, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu sais pourquoi tu seras pas huée? Parce qu'il y a pas de gens à poil sur scène et parce que tu passes pas un film porno en arrière scène. Voilà, il y a pas de secret. Cela dit, j'ai vu des gens hués dans des salles d'opéra pour beaucoup moins que ça.
Bien sûr. Okay.
Et en fait, qu'est-ce qui fait un mauvais opéra? Je pense que c'est un metteur en scène qui passe à côté en fait du livret qu'il a entre les mains. Ça peut partir de tout, en fait, même des fois un mauvais éclairagiste, c'est-à-dire une lumière très terne qui met pas en valeur les interprètes, ça peut rendre un spectacle très ennuyeux, un mauvais chanteur dans le cast aussi. En fait, finalement, ça dépend, c'est dur l'opéra parce que ça dépend de plein de choses, en fait.
Demain et après-demain, vous chanterez des mélodies pour mezzo et orchestre de Tchaïkovski, et puis vous chanterez aussi du Bizet dans le programme. On se demande toujours, on pose toujours la question aux chanteurs, femmes ou hommes, dans les choix de carrière, il faut faire attention à chanter des airs qui sont pour sa voix, pour pas se planter. On pense à toutes ces sopranos qui ont chanté Carmen, par exemple, par caprice et par envie. Du coup, vous faites attention à ça?
Oui, énormément. J'essaie, en tout cas. Des fois.
Pourtant, votre répertoire est très très large.
Oui, non. Moi, je pense que je fais partie des gens qui prennent des risques. Voilà, ça c'est un fait. Mais j'essaye en tout cas, par exemple, quand on me propose un rôle, même si je sais qu'il est un peu large pour ma voix ou peut-être un peu tôt, j'appelle toujours mon prof de chant ou mes coachs vocaux. J'en parle à mon agent aussi. Enfin, je me concerte avec beaucoup de gens.
Vous ne prenez pas la décision toute seule?
Non, jamais. Je prends jamais la décision toute seule parce que des fois, c'est au-dessus de mes moyens, en fait, de prendre une décision toute seule. Il y a des choses qui sont évidentes, c'est-à-dire que j'ai même pas 30 ans. Si on me propose un opéra de Wagner ou un premier rôle verdien, évidemment, je vais dire non parce que ce sont des répertoires extrêmement larges pour la voix. Ça demande une autre voix que la mienne. Exactement. Et encore, ça veut peut-être même. Je ne vais peut-être jamais en chanter de ma vie. Ouais. Ça dépend des évolutions. Ça dépend vraiment de l'évolution de la voix de chacun. Mmh. Et donc voilà. Donc pour ça, voilà. Après, il y a des opéras au milieu, c'est-à-dire entre le répertoire baroque, mozartien, qui est très bien pour les voix jeunes, pour les voix de manière générale, et le répertoire extrêmement large, Verdi, Tchaïkovski, Puccini, tout ça, Wagner. Eh ben, il y a des choses au milieu, des fois, qui peuvent être un peu tôt, voilà. Mais j'essaie quand même d'y aller avec le plus de prudence possible, même si, J'ai déjà fait quand même des rôles qui à la base sont faits pour être chantés par des gens peut-être avec un peu plus d'expérience que moi.
Bon, ce que j'entends, c'est que vous y alliez.
Voilà.
Ouais, elle concerte, mais bon, si elle a envie, elle y va. Yann Molena, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous nous préparez une belle surprise demain et après-demain. Vous dirigez l'ensemble instrumental de Corse. Et alors là, quel bonheur pour cette programmation.
Écoutez, oui, c'est un cadeau de Noël avant l'heure.
Ouais.
L'un des plus grands tubes du chant avec Carmen et je pense tous les amoureux de la musique sont heureux. Et puis s'il y a un jour pour découvrir l'art lyrique, c'est demain justement avec ça. Et puis une première partie russe, voilà, on est vraiment dans le romantique. On va vivre une soirée romantique exceptionnelle, voilà.
Oh là là.
Génial.
Comment vous avez pensé à Éléonore et comment vous avez pensé à ce violoncelliste? Comment ça s'est fait, Yann?
Alors, Éléonore, ça fait déjà bien 2-3 ans qu'on se contacte et qu'on a envie de travailler ensemble et que son agenda et sa carrière fulgurante après toutes les merveilleuses récompenses qu'elle a eues fait qu'on n'a pas tout de suite réussi à travailler ensemble. Et ça fait déjà bien 3 ans que je l'ai entendue et que j'ai trouvé déjà exceptionnelle et que j'avais envie de travailler avec elle. Et quant au violoncelliste, écoutez, c'est quelqu'un que j'ai croisé dans mon parcours musical et je me suis dit si je dois faire des variations rococo avec quelqu'un, ça peut être Dimitri, quoi.
Ouais.
Voilà, ce sera lui.
Bon, en tout cas, Éléonore est complètement sous le charme et on peut lui faire confiance. Donc, je pense qu'on va passer 2 soirées exceptionnelles. Demain soir au Théâtre de Bastia et après-demain à l'Espace Diamant d'Ajaccio. Donc, on vous en remercie. On a hâte d'y être. Lac des Cygnes avec des extraits. Les Mélodies pour Mezzo. Là, je parle de Tchaïkovski et variations sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre dont vous venez de parler. Et puis ensuite, après l'entracte, Georges Bizet, suite pour orchestre. Et bien sûr, Carmen sera avec nous sur scène. Merci Yann Molena de nous avoir fait un petit coucou.
Merci de votre invitation et j'espère vous croiser demain.
À demain. Ah, vous allez me croiser demain, ça je vous le garantis.
Ouais.
Au revoir. Allez tiens, un autre Corse qui commence à faire parler de lui, c'est Jean-François Maras. Un documentaire lui a été consacré et c'est rigolo parce que cette documentariste venait filmer plusieurs élèves, plusieurs pensionnaires et elle a un peu craqué sur cet outsider. D'ailleurs, c'est même le titre de son film, on le découvrira bientôt. Et là, vous êtes à ses côtés, près des remparts de Séville. On va pas l'entendre beaucoup, mais Jean-François Maras, c'est un Ajaccien aussi.
Absolument. Mais vous imaginez comme le monde est petit.
On était au lycée ensemble aussi, d'ailleurs.
Exactement.
Pourquoi aussi? Vous étiez avec Éléonore également?
Oui, tous les
trois.
Tiens,
je l'ignorais. Oui. Et donc.
On était au lycée.
Vous l'avez
ensemble.
Connu au lycée?
Mais bien sûr, il est sorti avec ma meilleure amie, il lui a brisé le cœur.
Je ne demande pas avec qui vous sortiez à cette époque-là.
Et en fait, on est toujours restés très copains et ça a été un plaisir de se retrouver à Paris après parce que Jean-François finalement.
Il avait déjà ce désir?
Ah, mais oui, complètement. Ouais. On était un peu. Je ne sais plus comment on en est venu à parler de chant lyrique ensemble, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune. Et du coup, je me rappelle, j'étais allée l'écouter en cours de chant avec son prof, Monsieur Grisogne. On chantait des duos ensemble. Enfin, c'était super et c'est vrai qu'on s'était un peu fait. On s'était un peu fait la promesse de réussir. Tous les deux. Donc je suis émue et contente pour nous.
Oh, c'est chouette. Il est donc ténor, Jean-François Maras, et vous entendrez parler de lui également. Il est ici aux côtés d'Éléonore Pancrazi, notre invité. Si je vous dis près des remparts de.
Séville.
Ah, oui.
De Bastia.
De Bastia.
J'irai chez mon ami de Las Bastia. Et les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amour. Mon amour, il est au diable. Je l'ai mis à la portière.
Jean-François Maras, et pardonnez-moi, c'est ma faute, c'est ma très grande faute pour les petits soucis techniques du départ. Éléonore, vous serez sur la scène du théâtre de Bastia demain avec donc ce concert tout à fait particulier, Tchaïkovski Bizet, Passion romantique, avec l'ensemble instrumental de Corse, la direction musicale Yann Molena, et puis le violoncelliste Dimitri Maslenikov qui sera également présent et dont vous nous avez dit le plus grand bien. Thomas,
ah,
c'est votre heure.
C'est mon heure. Mon heure est arrivée.
Alors expliquez un peu à Éléonore.
Alors Éléonore, tout d'abord, vraiment félicitations. Et c'est un gros coup de cœur. Donc je vais vous proposer un jeu. Mon rôle, c'est de vous faire jouer. Je prends une chanson, je chante la musique d'une chanson avec les paroles d'une autre chanson. Oh, et le but, c'est bien sûr de trouver les deux.
Ça s'appelle un mash-up.
Un mash-up.
Très bien. Mais c'est facile. Vous verrez, c'est facile.
Vous avez pris des chansons faciles, vous avez pris des chansons connues.
J'ai pris des chansons faciles, et puis voilà, j'ai
Vous
n'êtes
pas allé
orienté.
Me prendre la 12e piste de l'album de Jean Ferrat en 1950.
C'est ce que me dit souvent Marie,
oui,
vous prenez les phases B.
Vous prenez les phases B, les phases C.
Non, ce soir j'ai fait vraiment light et sympathique. J'y vais.
Vous savez la diva que vous avez en face de vous, avec quoi elle a commencé quand même?
Je ne sais pas, mais laissez-moi faire mon jeu.
Pardon.
Parce que j'aimerais pas être spoilé, voyez-vous. Vous êtes prêts?
Oui.
Toutes et tous. À 18 ans, j'ai quitté
facile.
Ma province bien décidée.
C'est facile.
À empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain.
Ils chantent trop bien.
De conquérir Paris.
Bon, moi j'ai les deux,
j'ai le tailleur le plus chic. J'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri.
Moi j'ai les deux. J'ai les deux. Solanzara pour la musique.
Bien joué.
Aznavour pour les paroles. À 18 ans.
Eh bien
j'ai
joué.
Quitté ma province.
Eh bien oui, Marie, mais alors Marie, vraiment, je
Marie,
suis.
Marie, deux points. Allez.
Impression. Éléonore, moins 10.
Éléonore a fait tout à l'heure à peu près 28 000 points sur les questions de musicologie.
Attention, celui-là, il est un peu tiré
d'opéra.
Par les cheveux, vous
allez.
Me direz. Allumer les postes de télévision. Verrouiller les portes des conversations. Oublier les dames et les jeux de cartes. Endormir les fermes quand les jeunes partent.
C'est un truc de fond, on dirait Patrick Bruel.
Briser les lumières des ruelles en fête.
Vous n'êtes pas sympa.
Refroidir le vin brûlant les assiettes. Emporter les mots des serveuses aimables.
Rien.
Disparu les chiens jouant sous les tables.
Moi je le connais.
Roxanne.
Et Cabrel.
Et Cabrel, c'était.
Vous savez comment je me rends compte que c'est Cabrel? Vous savez comment je me rends compte que c'est Cabrel? Parce que vous êtes tout autant chanteur que comédien. Et il ne peut pas s'empêcher de glisser un petit accent de temps en temps à la Cabrel.
Un petit accent du Sud.
Bon, allez. Bien sûr. Ça fait donc 0 point.
Merci pour le compliment, Patrick Bruel. Vous disiez ça pour les massages?
Quelle horreur!
Non, il y avait un truc dans les.
Dernier mash-up, dans la couleur. Dernier mash-up si vous voulez chanter.
Pensez à Patrick Bruel, quoi.
Dernier mash-up si vous voulez chanter.
C'était celui-là. Dernier mash-up, on y va. Vous êtes prêts?
Oui.
Attention spéciale dédicace.
J'aimerais pas sauver l'honneur. Vous allez la sauver maintenant.
Did I disappoint you? Or let you down? Should I be feeling guilty? Or let the judges frown? Cause I saw the end before we began. Yes, I saw you were blind, and I knew I had won. So I too was mine by ten
around. Oui, chanson napolitaine.
Took your soul out.
Je me rappelle plus. C'est des trucs Jean-François, il aurait su.
Donc la chanson, j'y vais.
Ouais.
Ouais.
Bon. Alors pour la chanson, pour les paroles, c'était ça. Bon, la chanson napolitaine, bien sûr, c'était Torna Sorien.
Non, mais moi, j'ai la honte.
Did I disappoint you?
Oui, voilà.
Or let you down?
Et vous savez pourquoi?
Should I be feeling guilty?
Non. Souvenez-vous, Eleonore. Vous avez chanté cette chanson.
Mais si, je me rappelle. Non, mais comment? Bah alors, alors, on va s'arrêter juste une seconde.
Oui,
vous revenez deux minutes.
Oui.
Comment
dans
vous
la salle
savez
du
ça?
CDI.
Mais comment vous savez ça?
Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Touch my heart, touch my soul. Change my life and all my goals. And love is blind, I knew it. My heart was blind by you. Kiss your lips and hand your head. Share your dreams, share your bed. I know you well, I know your smell. Happy that I did to you.
Les amis, pour ce moment, merci.
Mais non, mais par contre, comment vous savez que j'ai chanté ça dans le CDI de mon lycée?
Allez savoir.
À part les gens. Michael.
Pardon.
Michael, c'est toi.
Michael est de retour.
Peut-être que j'étais bien là, dans la salle, ce genre-là.
Tchaïkovski, Bizet, passion romantique avec Éléonore Pancrade, notre invitée demain soir, donc sur la scène du théâtre de Bastia. Et après-demain, à l'espace Diamant d'Ajaccio avec l'ensemble instrumental de Corse. Franchement, un concert à ne pas manquer. Réservez vite vos places comme je l'ai fait parce que vous allez rater. raté un grand moment de musique. Et c'est un privilège de vous avoir à nos côtés ce soir, Éléonore.
Vraiment.
On se quitte en musique.
Si vous voulez, je peux encore vous fredonner quelque chose.
Alors attendez, ah oui, avec plaisir. Si vous chantez, je vous filme. Et si Éléonore a envie de chanter avec vous,
t'es pas là.
Qu'il non, est bête.
Ah non, mais c'était Florent Pagny en plus, rien à voir.
C'est encore un mash-up là ou...
Non, c'est une vraie chanson.
Non, c'est une vraie fredonnade.
Ah, laissez-moi me mettre en place. Allez, c'est
cool. Je la connais pas trop bien, mais c'est pas grave, hein, on y va.
Ah, mais qu'est-ce que vous avez choisi pour Éléonore ?
Choisis une petite comptine napolitaine.
Allez.
Cathalie,
oh, j'adore.
Cathalie, perché me disse ste parole amare? Perché me parlo corre me turmente, Cathalie, non te scorda, ottaggio da tuo cuore, Cathalie, non te scorda, Cathalie, Cathalie, che venni a dicere, sto parlando e chi a me da spasi me, non c'è pienza sto dolore mio. Bien, c'est tout, non te ne cure. Cuore, cuore ingrato, te pigliato la vita mia. Passato e non c'è niente.
Sur RCFM, quel bonheur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Éléonore, vous venez quand vous voulez, vous êtes ici à la maison. On vous retrouve demain sur la scène du théâtre de Bastia et après-demain l'espace Diamant d'Ajaccio. Réservez vite vos places. Bonne soirée à tous.
France Bleu RCFM.